Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, merci d'être présents pour cette troisième leçon. Nous allons, après avoir situé le problème lors du premier cours et avoir analysé lors du deuxième l'hypothèse jusque-là déviante de Lommel, je vous avais averti à la fin du dernier cours qu'aujourd'hui, il serait question de l'avancée décisive qui a eu lieu en 1985. En 1985, paraît dans l'Indo-Iranian Journal un article consacré au Fravashi par Johanna Narten. Johanna Narten, avec la technique extrêmement précise et sa stratégie qui est quelque chose de commun avec celle des échecs, analyse, reprend le problème. Elle commence par plus ou moins, n'est-ce pas, faire la discussion, poser le problème comme je l'ai fait lors de la première leçon. Puis, elle insiste sur le fait que d'un strict point de vue linguistique, c'est l'hypothèse de Lommel qui est la plus vraisemblable. Car effectivement, j'ai été surpris à reprendre le dossier ces derniers temps de voir que toute la discussion qui avait eu lieu sur ce que l'on appelait l'étymologie, entre guillemets, n'est-ce pas, du nom des Fravashi, le problème de la simple apparence phonétique du mot n'était jamais entré en ligne de compte. Narten établit, ce qui est l'évidence, c'est un constat d'évidence, que c'est l'identification par la racine var, choisir, qui s'impose. Pour la raison de construction du mot, en dehors, nous avons donc le préverbe, puis une racine var, qui a cette forme de degré plein apparent, alors que pour la construction avec le préverbe d'agent ti, le degré zéro est normalement requis. Dès lors, seule la racine var, choisir, peut avoir aidé à construire ce mot. L'argument n'est pas décisif. Il faut immédiatement faire la nuance. Il arrive qu'une racine, qu'un nom d'action en ti présente un degré plein. C'est une possibilité. Mais c'est l'exception. Donc si nous ne tenons pas compte d'éventuelles exceptions, l'apparence phonétique même du mot plaide pour l'explication par la racine var. La phonétique, maintenant. La sémantique, excusez-moi. Johanna Narten établit, en deuxième lieu, après l'apparence phonétique du mot, que le sens de choisir, établi par Lommel, est bien le sens de la racine. Dès lors, tout recommande de voir dans le mot fravashi le Wahlentscheidung, c'est-à-dire la capacité de faire un choix, de prendre une décision que Lommel avait établie. Troisième point, Narten, en 1985, ce que Schlierat n'avait pas encore pu faire en 1980, peut utiliser la mise en rapport du mot fravashi avec le verbe fravarané par Hoffmann au congrès de Budapest en 1979. Je vous le rappelle, la déclaration fravarané, je veut choisir, littéralement, puisqu'il s'agit d'un subjonctif, et donne, en tant que premier mot du texte, le titre d'un texte extrêmement important de l'Avesta récent, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Toutefois, Narten ici fait la nuance immédiate que, dans le cas du fravarané, le sens s'est modifié. Le sens de fravarané, ce n'est pas « je choisis », dit-elle, étant donné que le mot se construit qu'un nominatif, c'est plutôt « je fais la profession de foi. Je fais une profession de foi, en quelque sorte, credo, comme on l'a dit pour le fravarané. J'ajouterai quelque chose au bilan de Narten en faveur de la racine var. C'est que Narten ne le fait pas remarquer, mais si nous expliquons le mot fravashi comme la capacité de choix, la capacité de faire un choix, nous obtenons une figure divine d'un type qui entre de manière tout à fait cohérente dans le système du panthéon mazdéen. Tous les dieux mazdéens portent un nom lisible, comme je vous le disais. À moins que nous ne soyons pas capables, nous, de faire le choix entre les diverses possibilités d'explication du mot, ce qui est le cas pour Fravashi, ce mot a un sens immédiat qui est reconnaissable, qui saute aux yeux même, sinon de nous qui n'avons qu'une connaissance extrêmement imprécise et extrêmement partielle de la langue, mais tous ceux qui, à l'époque de composition des textes, entendaient ce mot, étaient capables d'y reconnaître la capacité de faire un choix, immédiatement. Donc, c'est un nom lisible. Dès lors que le sens de ce nom et la capacité de choix, c'est une allégorie. La plupart des dieux mazdéens, pas tous, s'ils ne représentent pas des secteurs de la nature, sont des allégories. Ils sont non seulement des allégories, on peut aller très loin dans la précision, n'est-ce pas, mais ce sont des allégories abstraites, ce sont des abstractions. La capacité de choix en est certainement une. C'est un nom d'action, mais on ne va pas ergoter. Et de surcroît, nouvelle précision encore, fréquemment aussi, ces allégories abstraites sont d'ordre métonymique, c'est-à-dire qu'elles représentent un aspect, et un aspect seulement, de la personnalité humaine. Donc la Fravashi, c'est la force qui, dans chaque être pensant, qu'il soit Dieu ou homme, est la capacité de faire un choix. Voilà, je vous dirai ici que pour moi, au point de vue du mot Fravashi, la messédite, je crois que l'article de Narten est définitif. Mais comme je vous l'avais signalé lors de la première leçon, il reste à défendre cela, car cette hypothèse n'est pas acceptée de manière unanime. La vieille hypothèse du héros qui recouvre pour protéger est toujours vivante dans l'esprit de certains, comme d'ailleurs l'idée de mouvement perpétuel l'est aussi chez certains, et je vous ai dit dans quel contexte elle réapparaît régulièrement. Oui, donc pour le nom Fravashi, je crois que nous sommes à présent en possession d'une certitude. Mais il reste des problèmes. Il reste des problèmes. La première, c'est la réserve que je dois faire sur le sens de Fravarané. Je ne pense pas, nous allons y venir, mais Narten prétend qu'il y a une modification du sens dans l'emploi de la Vestique récente par rapport au Védique, où Pravar ne serait plus choisir, mais s'affilier en quelque sorte à quelque chose, devenir le fidèle de quelque chose. Ça, il faut faire des réserves sur cette idée. Il reste les problèmes, je dirais, deux problèmes que pose cette faculté humaine que nous venons de reconnaître. Le premier problème, c'est que s'est-il passé pour qu'il soit mythologisé, c'est-à-dire pour que cette allégorie métonymique forme une troupe de guerriers colorés, n'est-ce pas, qui a pour fonction non seulement la guerre, comme diraient certains, mais aussi le service des eaux. Qu'est-ce qui a entraîné la mythologisation fortement colorée de ces divinités abstraites et métonymiques? Comment s'est introduite aussi dans cette idée de capacité de choix, n'est-ce pas, l'idée de préexistence? Comment en est-on arrivé à la doctrine que la capacité de choix que tout être pensant peut manifester est préexistante à sa naissance? Bien sûr, c'est là-dessus maintenant que notre enquête va porter. Dans un deuxième mouvement, Narten a fait la critique de l'article de Schlierat. Oui, puisque Narten se présente à cet égard comme une nouvelle amélioration de l'hypothèse de Lommel. Narten admet qu'à l'origine, dans la notion de pravar, de ce type de choix, il y a certainement une sorte d'institution sociale, une pratique sociale qui consiste à former la suite des rois, à établir avec les rois un lien de vassalité, la Gefolgschaft, comme disent les savants allemands. C'est pas entrer, s'affilier à la suite, en quelque sorte, des grands barons du roi. Et aussi, à s'insérer dans la filière des prêtres qui ont rendu le sacrifice, hein, dans ce qu'on appelle le pravara, c'est-à-dire la lignée des ancêtres sacrificateurs, ou l'archeia, la lignée des rishis qui, depuis le tout premier rishi qui a rendu le sacrifice, à savoir le dieu feu lui-même, Agni, n'est-ce pas, s'est succédé jusqu'à arriver au prêtre qui dit « je » aujourd'hui dans le rite. Mais cela, pour Narten, c'est l'origine. C'est l'origine de la notion de choix qui se manifeste dans Fravashi. À l'origine, c'était cela, mais ce ne peut plus être cela, nous dit-elle, dans la vision mazdéienne des choses. Et dans ce contexte, d'ailleurs, Narten pense que le choix qui fait le nom des Fravashi est essentiellement ce vieux choix mazdéen dont nous avons tellement entendu parler, hein, entre le bien et le mal. J'en ai fait une critique préalable devant vous, je ne sais pas si c'était lors de la première, c'était lors de la leçon passée, je pense. Or, cette notion de choix entre le bien et le mal apparaît dans deux passages de l'Avesta ancien que Narten exploite. Le premier, c'est le Yasna 43-16, je vous donne le texte en traduction, il ne présente pas de difficultés linguistiques. Le Yasna 43-16, c'est la première division de la seconde gatha, et l'idée de faire un choix entre les deux esprits, celui du bien et celui du mal, se trouve dans la strophe conclusive, dans la dernière strophe, la strophe 16, où le chantre, s'adressant à Ahura Mazda par son nom vocatif, « Ô Ahura Mazda, Zarathustra, dit-il, Zarathustra, il choisit, verbe au singulier, et il choisit le Manu, sous-entendu le bon. » Voilà donc le mot Manu, l'esprit, dont ils sont deux, le bon et le mauvais, est prononcé ici, et il fait l'objet d'un choix. C'est un témoignage qui doit être fortement nuancé, car c'est la strophe conclusive de la Haïti. Or, cette division, ce premier mouvement de la deuxième gatha est dominé par un refrain. C'est d'ailleurs une caractéristique stylistique particulière de cette deuxième gatha que de pratiquer par une succession de secteurs qui reçoivent leur cohérence d'un refrain en premier vers de strophe. Or, le refrain est une déclaration adressée à Mazda, mentionnée au vocatif par son nom, où celui qui parle, Veronté, c'est une troisième personne pour Zarathustra, dans cette strophe conclusive. Mais dans le refrain, la déclaration est faite à la première personne. Elle est faite à la première personne. Et elle consiste à dire « je pense », donc le verbe « penser », que toi, Ahura Mazda, tu es Spenta. Je ne traduis pas, parce que ces deux manu, les deux manu, le bon, le caractère positif du bon manu est défini justement par le mot Spenta. Ici, le mot Spenta ne s'appelle pas à Manu, mais à Mazda lui-même. Oui, mais il est plus important de relever, nous tournons bien sûr autour de l'idée du choix entre les deux esprits, mais il est important de relever que le mot Mainu et le verbe penser, je pense, sont tous les deux dérivés de la même racine man. J'ai défendu l'hypothèse qu'en réalité, le manu, c'est l'opinion, c'est l'avis que l'on peut avoir sur quelqu'un. Dans ce contexte-ci, attention, dans ce contexte-ci. Donc, vous voyez qu'ici, le choix entre les deux manus, ce n'est pas vraiment le choix entre le bien et le mal directement, n'est-ce pas ? C'est le choix d'une opinion favorable ou défavorable sur le grand Dieu. C'est se faire partisan du grand Dieu directement. Je choisis l'avis sur toi qui est positif. Je pense que tu es Spenta, je pense que tu es bienfaisant, que c'est toi. Je ne veux pas, naturellement, je ne veux pas imposer l'idée que c'est toujours le sens de Manio. Hein, c'est ce que j'ai essayé de le faire dans un article des Münchener Studien. Je suis peut-être allé trop loin dans ce sens. On me l'a reproché, à juste titre, parce que mes arguments ne sont pas suffisamment décisifs pour les autres passages. Mais on peut m'accorder que dans ce chapitre précis des Gathas, c'est le sens de Manio. Vous voyez que le choix est un peu différent. Ce n'est pas vraiment le bien et le mal. Alors, le deuxième exemple aussi, qui pourrait témoigner de ce choix entre le bien et le mal, se trouve dans le Yasna Haptankaiti. Narten le donne aussi. Yasna 35. 2. Nous choisissons, notre verbe var, sans le préverbe d'ailleurs, nous choisissons de penser, man, de dire et de faire ce qu'il y a de meilleur. Est-ce choisir entre le bien et le mal? Oui, si l'on donne de cette fameuse triade omniprésente dans les textes mazdéens, penser, dire et faire, un sens purement éthique. Est-ce que ce sont les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions du point de vue de la morale, simplement, ce qui est l'opinion majoritaire, je ne sais pas, mais ce qui n'est pas la seule et qui n'est pas la mienne, d'ailleurs. Hein, il y a aussi une autre interprétation, l'autre interprétation de cette triade, c'est de l'interpréter dans le contexte rituel. Pas la triade serait liturgique, hein, et cette pensée, cette parole et cette action, ce sont les textes que l'on récite pendant le sacrifice. C'est l'idée que l'on se fait par le maniou, justement, des divinités dans le sacrifice, c'est les textes que l'on récite et c'est les gestes que l'on fait. Entre autres, ceux de l'immolation, probablement, ceux de l'immolation animale. Hein, c'est une idée qui ne m'est pas personnelle. Je crois que c'est la seule possible dans les textes, mais ça, c'est un débat qui est ouvert aujourd'hui. Et vous voyez que vous vous trouvez ici devant une alternative. Y a-t-il choix entre le bien et le mal? Oui, si vous donnez un sens éthique à la triade. Non, si vous lui donnez un sens essentiellement liturgique. Voilà donc comment se pose ce problème. Alors, il y a la deuxième question, c'est celle du sens de la déclaration fravarane. Est-ce que, en prononçant, fravarane passe traditionnellement pour le credo des Mazdéens. Quand le prêtre dit « Mazda yasno fravarane », cela signifie « je choisis », je garde le vieux sens pour introduire peut-être le nouveau, nous verrons bien. Mazda yasna, nous en avons parlé. Je suis quelqu'un, je choisis d'être Mazdéen. Donc, je me déclare Mazdéen. Je fais mon credo de Mazdéen. Ici, nous nous trouvons, comme je l'ai dit la fois dernière, devant le problème de la catachrèse. Faut-il comprendre le mot Mazda yasna au sens littéral de celui dont le sacrifice s'adresse à Ahura Mazda? Ou bien faut-il lui donner un sens déjà affaibli, affecté par la catachrèse, comme l'on dit en rhétorique, et qui est simplement le sens de mazdéen, c'est-à-dire un fidèle de la religion mazdéenne? Oui, si je choisis d'être mazdéen, vous voyez bien que ça veut dire exactement comme Narten le pense, je me déclare mazdéen, simplement. Mais, et là nous rejoignons peut-être le pravaram védique de Schlierat, cela peut vouloir dire, si nous gardons à Mazda yasna son sens premier, je choisis de rendre le sacrifice à Ahura Mazda, ce qui est l'élection de la divinité cible par le sacrifiant. Et comme nous savons que cette élection est réflexive, dans la strophe suivante, d'ailleurs, Mazda va dire, c'est votre piété que je choisis. Donc l'agrégation est réciproque, le Dieu choisit son sacrifiant en retour, comme le sacrifiant l'a choisi. Ici aussi, nous avons le choix entre un acte de piété un peu indéterminé, vague, général, n'est-ce pas, et un sens liturgique très fort, évidemment. Alors, je vous résume parce que pour essayer d'approcher du sens de Fravarané et peut-être d'y raccrocher le nom des Fravashi, je vous résume les conclusions du cours qui avait été exposé il y a 2 ans. En m'attachant à ce secteur du Yasna qui se situe entre le chapitre 9 et le chapitre 15, c'est le préliminaire du sacrifice, après les litanies initiales de 9 à 15, les opérations rituelles de la grande liturgie du Yasna sont les suivantes. Un éloge de la liqueur sacrificielle Hauma. C'est un vieux texte qui accompagne un rituel de pressurage du hauma. Mais dans le yasna, il n'y a plus de pressurage. Le hauma que les prêtres vont boire a été pressuré hors cérémonie. Le prêtre officiant, celui qui jusqu'ici dit « je » sans s'attribuer aucun titre, où il dit parfois « nous », il y a une alternance de singulier et de pluriel dans toute la liturgie du yasna, selon que l'officiant principal parle en son seul nom ou qu'il parle au nom du collège. Donc le prêtre va boire deux fois, il va avaler deux fois une gorgée de hauma. Et entre les deux gorgées, selon les additions du visprat, a lieu l'investiture du collège sacerdotal, des huit prêtres qui vont officier. Ça se fait selon un texte, ça se fait selon une procédure, semble-t-il, très simple, n'est-ce pas, puisque quelqu'un qui dit « je » dit qu'il installe telle fonction sacrificielle, le prêtre chargé de telle fonction sacrificielle, et ce prêtre, pressenti pour exercer cette fonction, dit simplement « j'accepte ». Puis le collège sacerdotal investit le patron du sacrifice, son patron, le chef du sacrifice, qui est le zaoutar. Une fois l'investiture ainsi opérée, le zaoutar, puisque maintenant nous savons qui il est, va boire une deuxième fois du hauma. Il boit une deuxième fois du hauma. Or, la formule qui accompagne cette absorption de hauma les deux fois n'est pas la même. La première fois, celui qui boit dit « je te donne mon corps, je te donne mon corps ». Opération que nous connaissons bien, cela, d'après, nous comprenons bien le sens, d'après aussi le soma védique, n'est-ce pas ? Le dieu a été pressuré, la plante a été pressurée. Le dieu n'a plus de corps, il est mort, il a été frappé. Et le prêtre qui le boit lui rend un corps, le sien. Il abandonne son corps au dieu, il ressuscite le dieu, mais cela, ça consiste à aliéner son corps, c'est-à-dire, c'est bien sûr une immolation symbolique de soi-même. Lors de la deuxième absorption, il formule une demande eschatologique collective pour lui-même et pour tous ceux qu'il représente, pour le groupe social qu'il représente, c'est-à-dire il demande au dieu Hauma qu'il boit une seconde fois de veiller à assurer le paradis à lui-même, au prêtre et à ses commanditaires. Avant d'arriver au Fravarané, le prêtre va prononcer une formule qu'il adresse aux divinités et où il affirme qu'il leur fait cadeau, en reproduisant d'ailleurs à peu de choses près, avec une légère adaptation en strophe gathique qui dit la même chose, il leur fait cadeau de son nushtana. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu le relevé des âmes qui est fait dans l'Yasna 26, n'est-ce pas, l'Ushtana. Alors, le tableau pourrait être le suivant, si nous nous représentons la personnalité humaine. D'abord, le prêtre abandonne son corps, bon, tout son aspect matériel qu'il offre au Dieu. Mais s'il pratique une auto-immolation symbolique, il se sépare aussi de son âme interne et immortelle, son Urvan. L'Urvan disparaît. Il donne à présent son Nushtana, une de ses âmes mortelles, la faculté de mouvement autonome, c'est une âme mortelle. Il en fait cadeau aux divinités. Il s'en défait ainsi aussi, il l'aliène aux divinités. Et puis, après s'être donc symboliquement réduit à ses facultés immatérielles et immortelles, il va prononcer le Fravarané. Et il va déclarer « Je choisis d'être un Mazda Yasna. Je choisis de rendre le sacrifice à Ahura Mazda. » Et c'est après la déclaration Fravarané qu'il va constater qu'il possède l'autre âme immortelle, la Daina. Le mot Fravashi n'a pas été prononcé. Le Fravarané débouche donc sur l'acquisition, la constitution d'une Daina pour les officiants. Et dès lors, le service, les gestes du culte vont pouvoir commencer et les officiants vont procéder à l'invitation officielle des divinités au sacrifice. En les appelant Amshaspenta, car il semble que dans ce secteur du texte, le titre catégoriel des dieux, pas y voir le petit club privé des sept immortels bienfaisants que l'on trouve dans certains secteurs du texte. Ici, c'est le titre officiel pour désigner l'ensemble de l'univers divin, les immortels bienfaisants. Vous, dit-il, je vais vous inviter, afin que nous, vous, les Amshaspenta, vous, les immortels bienfaisants, et nous qui faisons cet acte, nous sommes les Saushyant. Et Saushyant. Je vous rappelle que c'est un mot technique qui a été beaucoup discuté, mais c'est un contexte extrêmement éclairant, c'est un contexte fort éclairant que c'était le prologue du sacrifice. C'est un mot transparent, à nouveau. Là, on l'identifie tout de suite, avec ce sens surprenant, ceux qui vont gonfler, littéralement, ceux qui font gonfler. Et je crois que là, il faut y voir simplement une appellation métaphorique qui se rapporte à l'arrivée de l'aurore, n'est-ce pas? Parce que l'aurore est par excellence, elle est soura, elle est celle qui gonfle par excellence, parce que à partir d'un petit point minuscule dans le ciel, d'une manière irrésistible, elle va donner le ciel diurne, le grand jour. N'est-ce pas? Donc, et c'est à ce gonflement auroral sans doute qu'il est fait allusion. Nous voyons ici que les Saushyant, c'est un nom que se donnent tout simplement les officiants. Alors, ce qui s'est produit, c'était la conclusion que nous avions tirée de l'examen de ces textes il y a 2 ans, ce qui se joue dans ce secteur du texte, entre le Yasna 9 et le Yasna 15, c'est la construction de la personnalité sacrificielle des prêtres. C'est la construction de leur personnalité sacrificielle. L'abandon de leur être matériel, de leurs âmes immortelles, et la pleine récupération de leurs âmes immortelles. Peut-être la fravachie à travers le fravarané, mais le mot n'est pas prononcé, et à coup sûr la daïna. Or, cette mutation-là, dans la titulature des prêtres, elle se lit parfaitement. Le prêtre... C'est une fonction sociale, pas c'est une spécialisation sociale, c'est une fonction spécialisée. Celui qui l'exerce socialement est la tarouane, le prêtre. C'est la fonction sociale, c'est sa fonction dans la société, en dehors de tout contexte liturgique. Une fois qu'il est investi d'une fonction sacrificielle, il porte un titre, chaque prêtre du collège, il y en a 8, porte un trait spécifique. Pour le principal d'entre eux, il devient le zaoutar. Ne jamais traduire, vous l'avez fait, M. Mouradian, je crois, zaoutar par prêtre. C'est pas cela, n'est-ce pas? C'est pas cela, c'est une fonction sacrificielle précise, difficile à traduire en français littéralement. En fait, c'est celui qui puise les liquides. Puiseur en français, c'est pas... bon. Donc c'est celui qui fait les puisées, n'est-ce pas, des puisées des libations. Une fois la fonction sacrificielle acquise, la récitation du fravarané, c'est-à-dire l'expression du choix rituel, l'agréation mutuelle entre le sacrifiant désigné et la divinité, fait que le prêtre devient le Saushyant. Ça, c'est sa fonction sacrée. Il va œuvrer de telle sorte que lui-même et ses commanditaires accéderont à l'au-delà individuellement, mais il va entrer aussi dans la succession indéfinie de ceux qui, au cours de l'histoire humaine, ont rendu le sacrifice. Il prend rang dans l'éternité du sacrifice. Le sacrifice doit être rendu éternellement. Aujourd'hui, c'est lui qui va accomplir ça. Donc, nous retrouvons l'idée de Schlerat, en dernière mesure, du Pravaram. N'est-ce pas ? Il s'introduit dans une filière chronologique. Il s'introduit. Il prend la suite des sacrifiants de hier et il sera, dans le futur, suivi par une série d'autres sacrifiants. Oui, alors, il y a bien une filière, mais jusqu'ici, nous n'avons pu trouver aucun lien avec les Fravachis. Alors, la seule chose que je puis faire, savez, je vous ai fait l'autre fois la remarque que j'aimais que les formulaires concordent au-delà des idées. Ce n'est pas parfait, comme vous allez voir, mais parce que le mot pravara, nous n'avons pas l'équivalent. Il existe en védique, mais nous devons renoncer. Nous ne pouvons pas le dépister en avestique, nous ne le voyons pas. Cette idée d'un mot qui désigne la succession indéfinie, infinie des officiants liturgiques, nous ne l'avons pas. Mais les fravachis, justement, nous avons deux passages extrêmement intéressants. C'est le Yasna 26-10, en dehors de leur texte de référence d'ailleurs, le Yasna 26-10. C'est une litanie en Yazamaïdé, nous offrons le sacrifice. Nous offrons le sacrifice aux Fravashi des hommes, Nar, à Chavan. Nous offrons le sacrifice aux femmes, Chavan. Il faut comprendre, femmes, je pense, comme à leurs épouses, hein, aux hommes et à leurs épouses, Naïri à Chavan. Et puis, une précision, les hommes à Chavan, depuis Gaïa Martan jusqu'au Saouchiant qui brisera l'obstacle. Le mot Saouchiant réapparaît. Là, il y a un point de formulaire commun, mais celui-ci est au singulier, ce n'est plus nous, et il reçoit l'épithète vieille épithète traditionnelle qui, en Inde, est celle du dieu Indra, celui qui a tué Vertra, n'est-ce pas, le démon Vertra, mais dans les textes mazdéens, le mot Vertrajan doit être compris au sens purement abstrait de celui qui brise l'obstacle. Alors, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on offre le sacrifice à des fravachis qui se distribuent en une filière chronologique depuis Gaïa Martan, jusqu'au Saouchiant. Qui est Gaïa Martan? C'est le tout premier homme, mais vraiment le tout premier homme. Je m'excuse d'insister avec une petite naïveté apparente, parce que le mazdéisme se caractérise par la multiplicité de ses premiers hommes. Les origines, les débuts de l'histoire humaine n'en finissent pas dans le récit des origines mazdéennes. Ça n'en finit pas. Il y a un stade extrêmement progressif d'accession à l'humanité. Gaïa Martan, c'est le tout premier mortel. Il n'est pas vraiment un homme, car il est l'enfant des dieux. Il est le fils d'Ahura Mazda et de sa mère la Terre. Mais l'attaque des forces du mal, des forces maléfiques, a provoqué sa mort avant même qu'il ait été adulte. C'est un avorton, n'est-ce pas? C'est un embryon non viable, c'est sa forme. Sa forme est celle-là, c'est une forme ovoïde. Par là, on veut dire qu'il n'a pas pris forme humaine encore, avant de mourir. Et c'est à partir de lui que l'histoire des hommes va commencer, parce qu'en mourant, il fécondera sa mère la terre, et puis, bon, ces rejetons donneront finalement naissance à toutes les générations humaines. Donc, le tout premier homme, son nom signifie vie mortelle. S'il n'a pas encore forme humaine, s'il est le rejeton des dieux et pas d'autres hommes, l'essentiel est qu'il soit mortel. Et le Saouchiant au singulier, ce Saouchiant singulier qui reçoit de manière spécifique la caractérisation de briseur d'obstacles, Vertajan. C'est ce fils posthume de Zarathoustra qui mettra fin au temps, qui balayera définitivement par son regard les forces du mal et qui ressuscitera les morts. Donc, c'est le tout dernier homme. C'est le tout dernier homme. C'est depuis le premier homme jusqu'au dernier. Il est important que pour ce dernier homme, ce soit le Moussaouchiant qui est utilisé. On voit très bien que dans cette image, on a assez bien l'idée d'un pravara. Nous sacrifions à la fravachie, c'est-à-dire à la capacité de choix, à la force de décision de tous les nars à Chavan, depuis le tout premier jusqu'au tout dernier. Alors, j'attirerai votre attention sur quelque chose qui peut paraître indistinct, en tout cas indéterminé. C'est l'expression nars à Chavan. Nous avons pu établir aussi que ce sens-là doit être compris de manière restrictive dans la plupart des textes avestiques. Vous savez, l'homme, c'est une désignation de l'homme mâle, nar, le mot achavan, c'est-à-dire qui soutient l'ordre du monde, le hurta. Cela peut paraître, le hurta en avestique acha, achavan, l'idée est de soutenir, les textes l'expliquent assez bien, c'est soutenir l'ordre du monde. On peut comprendre les choses de manière très vague, n'est-ce pas ? Dire, voilà, c'est tous les hommes qui, dans leur vie, manifestent un comportement tel qu'ils sont favorables à l'ordre du monde. Mais ce n'est pas cela. Dans le texte en question, le texte de préliminaire, le texte de prélude au sacrifice que je viens de mentionner, lorsque les prêtres ont été investis entre leurs deux gorgées de haouma, ils sont investis, puis eux-mêmes procèdent à la configuration de l'assistance au sacrifice. Assistance peut-être virtuelle, peut-être symbolique, peut-être que les prêtres fonctionnent à huis clos, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils configurent la société qu'ils représentent. Et le personnage central, le personnage principal de ce groupe social, est au singulier le Nar Achavan et son épouse, Nairi, qui l'accompagne, bien sûr. Or, un texte de cette sorte-là nous montre parfaitement, n'est-ce pas, de quoi il est question. C'est pas ce Nar Achavan, cet homme au singulier qui reçoit une sorte d'onction par du collège sacrificiel. Eh bien, c'est le commanditaire du sacrifice. Nar Achavan est dans le contexte de l'Avesta récent. Vous ne faites pas parler de l'Avesta ancien, certainement pas. Mais dans le contexte de l'Avesta récent, le Nar Achavan, dont il est si souvent question, c'est le commanditaire du sacrifice, celui qui prend la responsabilité d'organiser à ses frais une cérémonie sacrificielle. C'est le Yajamana des textes védiques, ce commanditaire. Donc, dans le Yasna 26-10, ce n'est pas du tout indifférent, n'est-ce pas, ce qui se joue, n'est-ce pas ? On annonce la cérémonie sacrificielle en l'honneur de tous les commanditaires sacrificiels qui se sont succédés depuis le premier jusqu'au dernier. On retrouve cette idée dans le Yashte 13-17, où Yashte 13-17 est un curieux passage qui établit une échelle de puissance entre les différentes fravachis. Et une des plus puissantes, d'abord, celle des Poiriyat Kaisha, littéralement les premiers ou les antiques docteurs, donc des hommes du passé. Ensuite, ce sont ceux des Saushyantes qui ne sont pas encore nés, sacrificateurs futurs. Ensuite, et c'est ici que revient le titre de Nar Achavan, les hommes Achavan qui sont vivants, donc les commanditaires sacrificiels en vie, et puis, quatrièmement, ceux qui sont morts. Ici encore, on établit une succession temporelle parmi les protagonistes du sacrifice, Saushyant et Nar Achavan, et on établit cela, et l'on se réfère à une filière qui va du passé jusqu'à l'avenir. Bien, alors, je voudrais maintenant en venir à un autre problème. Donc, ici, je donnerai aux Fravaranais, bien sûr, une interprétation liturgique, mais nous allons encore préciser les choses. Alors, je reviens à certains aspects de l'article de Narten. L'article de Narten, lorsqu'il est paru, était problématique. Il était problématique parce que, pour des raisons que je n'ai jamais bien compris, il s'insère dans une succession de publications un peu irrationnel, un peu illogique. C'est pas de la petite histoire, il faut le savoir, parce que peut-être en lisant, si vous lisez la littérature spécialisée, vous verrez que les théories que Narten a défendues dans certains articles publiés vers 1980 n'ont pas toujours été bien comprises. Et c'est cette incompréhension que je voudrais expliquer. Narten a travaillé durant très longtemps à une thèse d'habilitation sur un texte avestique qui s'appelle le Yasna Haptankaiti. C'est un texte en prose inséré dans les Gata et qui signifie le sacrifice en sept chapitres. Elle a soutenu cette thèse en 1969, mais elle ne l'a publiée qu'en 1986. Elle a publié. Or, entre ces deux dates, entre 1969 et 1986, dans une série de petites publications, et là, morceler certaines conclusions de sa thèse. On voit comme ça, dans un article qui paraît en 1969 même, qu'elle abandonne le terme gathique, terme par lequel on désignait la partie de la Vesta que l'on croyait la plus ancienne, par le terme vieille avestique. La raison en est claire, mais elle ne la donne pas. C'est que Nartain, dans sa thèse, a établi que le Yasnahabdankaiti était rédigé dans une langue identique à celle des Gatha. Dès lors, il n'y a plus de raison d'appeler la partie ancienne de l'Avesta gathique, puisque les Gatha ne sont pas tout l'Avesta ancien, qu'il faut y introduire aussi l'Yasnahabdankaiti. Dès lors, elle adopte le terme vieil avestique. Première incompréhension, pourquoi fait-elle cela? Et ça dure jusqu'à nos jours, d'une certaine façon, n'est-ce pas, puisqu'on le lui a encore reproché dans le courant des années 90. En 1982, elle publie un petit livre sur la notion d'Amshaspenta, les immortels bienfaisants. Elle fait cela parce que l'Yasnahabdankaiti est le témoignage décisif sur l'origine de ce secteur du Panthéon que l'on appellera les immortels bienfaisants, les Amshaspenta. Mais le texte de Yasnahabdankaiti n'est pas exploité comme tel. Seconde incompréhension. En 1985, elle publie deux articles, celui sur les Fravashi et celui sur la rection syntaxique du verbe sacrifier en avestique. Si elle publie cet article sur les Fravashi, c'est aussi parce que le Yasnahabdankaiti apporte un témoignage décisif sur les Fravashi. Mais elle ne le dit pas clairement. Et elle publie l'article sur Yas parce que ce témoignage sur les Fravashi du Yasnahabdankaiti est embrouillé par l'emploi qui est fait dans ce témoignage du verbe Yaz, sacrifié. Enfin, les choses auraient pu s'éclaircir en 1986, quand la thèse elle-même a été publiée, mais on a été, plutôt sensible à d'autres aspects de cette thèse, hein, entre autres la véritablement très haute qualité du travail, l'idée que l'on possédait, l'idée que l'Avesta ancien n'était pas réduite au seul Gatha, et aussi cette affirmation, c'est une pure affirmation de Nartain, que comme les Gatha, le Yasnahabdankaiti est l'œuvre de Zarathoustra lui-même. Ce sont des choses qui ont plus frappé les esprits que la remise en ordre des quelques hypothèses qu'elle avait formulées auparavant. Alors voilà, alors que l'on croyait que la période ancienne, que la période à l'époque de l'Avesta ancien et des Gatha, le mot Fravashi n'existait pas. Le mot Fravashi est attesté dans le Yasnahabdankaiti, c'est-à-dire probablement à l'époque des Gatha et sous la plume, selon Nartain, du même auteur. Le passage figure ici. J'ai demandé qu'on puisse projeter ce passage. Je ne veux pas, devant un public aussi vaste, faire une analyse linguistique détaillée. Mais je voudrais bien expliquer, parce qu'en termes simples, sans faire de la grammaire et de la linguistique, en quoi ce témoignage, cette plus vieille attestation du mot Fravashi en iranien ancien est véritablement problématique. Alors, dans le troisième chapitre, ça fait partie du troisième chapitre du Yasnahabdankaiti, et dans ce chapitre, le collège sacerdotal, à la première du pluriel, comme toujours dans le Yasnahabdankaiti, il n'y a pas d'alternance entre le singulier et le pluriel dans le Yasnahabdankaiti, déclare qu'il sacrifie à Ahura Mazda. Ahura Mazda est représenté, son nom ne sera plus prononcé sauf indirectement, dans cette strophe, il l'a été auparavant, dans les deux premières, il est représenté par le pronom personnel, Tum, que vous voyez trois fois, première ligne, troisième ligne, quatrième ligne, trois fois. Et il est à l'accusatif singulier parce qu'il est l'objet du verbe sacrifier, qui lui aussi apparaît trois fois, vous voyez, Yazamaïde, à la fin de la deuxième ligne, à la fin de la troisième, à la fin de la cinquième. Yazamaïdé, nous sacrifions. Oui. Alors ici, une petite explication qu'il faut donner. Lorsque nous disons « nous sacrifions quelque chose », c'est l'offrande, l'objet de notre verbe sacrifier, c'est l'offrande que nous faisons au Dieu dans le sacrifice. Hein, c'est comme cela que le verbe sacrifier en français est transitif, c'est dans ce, sur ce mot-là. Et puis vient le complément d'objet indirect, hein, au datif. Nous sacrifions cela à. Et le nom de la divinité vient au datif. Le modèle syntaxique n'est pas du tout le même avec le verbe sacrifier indo-iranien, le verbe yaj indien ou le verbe yaz iranien. Le dieu à qui l'on sacrifie est à l'accusatif. À l'accusatif. C'est lui qui est l'objet. Hein. C'est ce qui entraîne, bien sûr, une difficulté de traduction pour nous. Il faut faire attention. Tom Yazamaïde, nous sacrifions à lui. Hein. Nous sacrifions à lui, mais c'est à l'accusatif, à Uramazda. Alors, l'objet ou le moyen de ce sacrifice, indifféremment, survient au cas instrumental. Au cas instrumental. C'est parfois ce qu'on offre au Dieu, parfois ce que l'on exerce pour lui offrir un sacrifice. Par exemple, nous lui sacrifions, nous lui faisons des libations. Donc ça, c'est ce qu'on lui offre, n'est-ce pas ? Mais parfois aussi, nous lui sacrifions avec un poème. Ça, c'est plutôt le moyen. Hein, c'est le moyen de, les moyens du sacrifice. Alors, c'est le modèle d'érection tout à fait régulier. Hein. Donc, nous sacrifions à, accusatif, telle ou telle chose, au moyen de telle ou telle chose, instrumentale. Or, ici, je fais abstraction des mots Ahuwiria, Mazda, Varas, Pento, Temar, qui ne sont que des adjectifs caractérisant Naamu Ni. Nous avons trois mots qui, d'abord pour le premier Yazamaïde, Naamu Ni, pour le second Yazamaïne, il y a deux termes là qui sont clairement instrumentaux, ils sont coordonnés. As de bish cha, ushtanai cha. Et dans le troisième groupe de Miyazamaïde, fravashish, qui est accompagné de ces génitifs pluriels ordinaires, les fravashide, hein, les achavan, hommes et femmes, comme vous voyez. Bon, alors le problème c'est que il est très clair que as de bish, instrumental pluriel du nom de l'os, ce qui est une désignation usuelle du corps. Le corps est désigné par l'os. Et l'ushtana, c'est-à-dire le mot que j'ai mentionné là, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, vous savez, mais il y a quelque chose se passe avec le A de la syllabe interne qui est tantôt bref, tantôt long. Bon. Ça, c'est une difficulté linguistique subsidiaire. Donc là, il est clairement dit, nous lui sacrifions, lui, à Uramazda, avec notre corps et avec notre âme mortelle, notre âme ushtana. On le met au pluriel parce que ça nous appartient à nous et l'adjectif possessif, notre figure, arma kaij. Donc avec nos corps et nos âmes mortelles. Le modèle est parfait. Malheureusement, ça ne fonctionne pas dans les deux autres groupes. Naamuni, c'est le nom. Naaman, le nom. Or, régulièrement, car l'expression est attestée dans d'autres passages, il y a référence à un mode sacrificiel qui consiste à sacrifier à la divinité nominalement, c'est-à-dire en faisant l'énumération de ses noms. C'est un motif qui revient souvent. Dès lors, l'on attendrait un instrumental, mais l'instrumental du nom, si je puis dire, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas être en principe Naamuni. Ça ne peut pas être Naamuni. On attendrait... il faut que je fasse une restitution. Hein, Naamana. Et comme nous sommes dans l'avestique, dans l'Avesta ancien, il y a l'allongement de la syllabe finale. Naamana. Naamuni. Naamuni. Alors, fravashish. Fravashish, ce n'est pas non plus, hein, ça ne peut pas être en principe un instrumental pluriel. C'est en principe un accusatif pluriel. Alors, dans l'analyse de Narten, c'est son réflexe usuel de grammairienne, n'est-ce pas, c'est de prendre les mots tels qu'ils viennent, tels qu'elle les trouve, ce qui est tout à fait recommandable. Mais vous allez voir que nous allons entrer dans des complications. Elle va donc prendre Naaman pour un accusatif pluriel, ce qui est légitime, légitime. Pas entièrement sûr, mais en tout cas, ça a un aspect de vraisemblance. Et elle va prendre Fravashish aussi pour un accusatif pluriel. Pour un accusatif pluriel. Là, oui, c'est la forme d'accusatif pluriel parfaitement attendue. Alors, le résultat, ben, vous l'avez dans la traduction anglaise. Hein, vous l'avez dans la traduction anglaise. Il s'agit... c'est la seule solution possible. Il ne peut pas y avoir d'ascendette. On ne peut pas avoir... il n'y a pas ici de... c'est, dans une structure comme ceci, on ne peut pas dire qu'il y a une coordination sans cha, sans e. Hein, nous lui sacrifions in the form, donc sous la forme de ces noms. Et nous lui sacrifions sous la forme des choix des achavanes. On dirait dans français théologique sous les espèces de, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on sacrifie à Ahura Mazda en l'assimilant à ces noms et en l'assimilant au Fravashi. La traduction que vous avez n'est pas la traduction de Nartin, c'est la traduction d'Almut Hinze. Mais elle adhère à l'explication de Nartin. Donc, sa traduction est l'adaptation, traduction tout à fait fidèle de la traduction allemande de Nartin. Hein, sa traduction de Nartin n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Bon, l'idée peut paraître bizarre, peut aussi paraître peut-être, disons, théologiquement justifiée, je ne sais pas. Mais ce qui me dérange personnellement, c'est aussi un trait grammatical. Je ne pense pas que dans un texte comme celui-ci, on va changer de modèle. Une construction en double accusatif dans le premier groupe, dans le premier syntagme yazamaïdé, une construction usuelle, accusatif plus instrumental, dans le deuxième groupe en yazamaïdé, puis retour au modèle en double accusatif dans le troisième groupe. Vous direz peut-être pourquoi pas. Je ne puis vous répondre qu'une chose à cela, hein, c'est que un texte indo-iranien ancien ne fonctionne pas comme cela, ne joue pas là-dessus. N'est-ce pas ? Ensuite, je vous rappelle autre chose, tout de même, le mot ushtana. Il est associé à Fravashi dans tous les contextes. Pourquoi le mot Fravashi, qui désigne une partie de la personnalité humaine, apparaîtrait-il dans ce contexte-ci, traité d'une autre manière que le corps humain, ast, et que l'ushtana humaine? La cohérence du tableau demanderait que lui aussi devienne une force sacrificielle que l'on exerce lorsqu'on rend le sacrifice à la divinité. Alors, est-il tout à fait exclu de pouvoir interpréter ce passage par l'instrumental? En 1987, donc un an après l'apparition du livre de Nartin, est paru dans Studia Iranica, l'un des tout premiers articles d'ailleurs, d'Éric Pirard. Pirard a montré, je crois à juste titre, ce n'est pas unanimement accepté, mais beaucoup de linguistes ont accepté l'idée que Nahmeni était en réalité un instrumental singulier, parfaitement régulier. Instrumental inattendu, mais irrégulier. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est ce que les linguistes appellent un instrumental protérodynamique. C'est-à-dire que l'accent, dans la flexion du mot, alterne entre la syllabe radicale et la syllabe du suffixe, mais ne se porte pas sur la désinence. Or, si nous restituons l'accentuation dans la forme attendue, namana, l'accent, le védique nous le montre, est un accent désinentiel. Alors, comme l'alternance se fait sur les deux premières syllabes du mot et ne glisse jamais sur la troisième, celui qui a analysé ces mécanismes et qui est Kuiper a créé le mot protérodynamique pour désigner ce type de flexion. Dès lors, nous retrouvons de manière banalement le modèle commun. Hein. Nous sacrifions au Ramazda en énonçant, ici au singulier, son nom, et puis on stipule tous les noms que l'on va lui donner, Ahuviria, Mazda, Vara, car on ne dira pas le composé, Spentotema. Disons que tu es Mazda, ton nom qui est Mazda, ton nom qui est Vara, en quelque sorte, celui que l'on choisit d'ailleurs, et ton nom de très bienfaisance, Pentotema. Alors, Pirard a glissé, naturellement, n'est-ce pas ? Il a glissé, il a proposé d'interpréter Fravachich aussi, comme un instrumental pluriel, qu'il a aussi baptisé de protérodynamique. Mais ici, ce n'est plus possible, parce que, comme vous le voyez, le suffixe ne comporte pas le degré plein accentué qu'il aurait dû comporter. Là, il y a certainement une extension injustifiée au cas de Fravachich. Alors, voilà où nous en sommes. Que faut-il faire ? Faut-il prendre Fravachich pour un accusatif pluriel, ou bien essayer de l'expliquer quand même par l'instrumental ? Comprenez-moi bien, je ne suis pas polémique quand je dis ça. J'essaye simplement de comprendre ce que le texte veut dire. Et je peux démontrer que je ne suis pas polémique parce que je peux, en vous racontant une petite anecdote, avoir été assis un jour dans l'ancien bureau de Karl Hoffmann avec son successeur, Forstmann, Johann Arten, Oettinger, Helmut Hinz, et on a fait le tour de toutes les possibilités qui pouvait, en se posant la question, quelles sont les catégories de mots qui peuvent former un instrumental protérodynamique, c'est pas ? Pour Naaman, on peut l'accepter, quoique Narten préférerait ne pas le faire, mais pour Fravachich, on ne peut pas l'accepter. C'est une chose qui... je vous signalerai aussi, d'ailleurs, les hésitations permanentes de Tremblay, qui de temps en temps publie un article où il adhère à l'hypothèse de Pirard, et puis un peu plus tard, il change d'avis, il pense que c'est vraiment pas possible et qu'il faut bien. Donc voilà l'ennui, n'est-ce pas, devant lequel voilà vraiment le problème auquel nous nous heurtons lorsque nous, avec le plus vieux témoignage du mot Fravachich. Maintenant, je vous donnerai mon avis. Il est aussi hypothétique, il n'est pas sûr. D'une certaine manière, ce n'est pas une jolie hypothèse, elles ne le sont aucune, n'est-ce pas ? Mais je me demande si Fravachich n'est pas un mot qui a échappé, ce qui est possible, aux soins de la transmission orale. Et s'il n'en a pas affaire à un véritable et authentique instrumental régulier, c'est-à-dire Fravachich-Bisch, ou par négligence, ou bien par un phénomène quelconque, l'élocution liturgique, au fil des siècles, a gommé progressivement la labiale. La labiale intervocalique. Ce n'est pas un cas isolé. Nous avons le Moyatou, le sorcier. Son instrumental devrait être Yatoubiche. Or, ce que nous trouvons en réalité dans les textes, dans le Forvarané, c'est Yatouche. Ça s'est produit dans les textes moyen-avestiques. Est-il impensable que ça se soit produit dans un texte vieil-avestique ? Voilà, nous avons fait le tour des trois hypothèses. Elles ne sont aucune démontrable. Faut-il choisir sur la foi de l'apparence formelle du mot ? Faut-il rester fidèle au modèle syntaxique ? Ou non ? Et si le modèle syntaxique s'impose, comment expliquer les régularités du mot Fravachich ? Nous n'y sommes. Ce problème est tellement gênant, n'est-ce pas, que Helmut Humbach, dans sa édition des textes vieilles avestiques de 1991, et puis Mary Boyce, dans un article publié quelques années plus tard, ont, en quelque sorte, comme on dit en football, botté en touche. Ils ont botté en touche parce qu'ils ont dit c'est une interpolation. C'est une interpolation. C'est un passage qui n'appartient pas au texte original. Dès lors, tout problème est écarté, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de témoignage, il n'y a plus alors de témoignage vieil-avestique du mot Fravachich. Je crois que c'est peut-être la plus mauvaise explication de toutes. C'est celle-là. Voilà où nous en sommes. Ça, c'est l'acquisition centrale de Narten. Malheureusement, peu apparente dans son article, n'est-ce pas ? Fravachich existait, est une notion vieil-avestique. C'est une notion vieil-avestique. Ce n'est peut-être pas une notion gathique, Nartène ne l'acceptera pas, puisqu'elle fait des deux textes, elle donne aux deux textes le même auteur. Mais si les deux textes n'ont pas le même auteur, ça peut être un terme exclusivement haptahatique, comme je dirais, hein, en faisant la distinction entre un vieil avestique gathique et un vieil avestique haptahatique. C'est une notion donc plus ancienne que l'on pensait. Et cette notion, quel sens a-t-elle? Elle se rapporte à quoi à cette époque reculée? Eh bien, si l'hypothèse de l'instrumental est juste, c'est la notion psychologique qui apparaît ici, n'est-ce pas? C'est l'âme immortelle, Fravashi, qui apparaît ici, hein, se combiner avec l'âme mortelle, Ushtana, et avec le corps humain. C'est donc la réalité psychologique qui est signifiée dans ce texte. Ce ne sont pas les âmes des morts ni la troupe guerrière. Nous avons comme ceci, je vais donc achever sur ceci, nous avons donc découvert ainsi nous avons pu préciser la distribution chronologique de notre documentation. Ce n'est pas une notion exclusivement récente, c'est aussi une notion vieille avestique. La notion d'âme, la notion d'âme est sans doute la plus ancienne qui soit attestée dans le matériel avestique, mais le travail n'est pas fini, bien sûr. Il va falloir maintenant se demander pourquoi cette notion a été mythologisée et pourquoi elle s'est agrégée, cette notion tout de même assez originale et bizarre, n'est-ce pas, et intrigante de préexistence. C'est cela le travail qui nous attend lors des prochaines leçons, et je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.